Un des grands auteurs contemporains méconnus, pas encore traduit en français, je vous en ai déjà parlé, c'est Albert Borgmann, qui va en 1987 écrire un livre qui s'appelle Technology and the Character of Contemporary Life. Donc, technologie et le caractère de la vie contemporaine. Il est un disciple de Heidegger. Il est né en 1934, il est encore vivant. Il est né en 1934 dans la patrie de Heidegger, c'est-à-dire que c'est un Allemand d'origine. Donc il est né à Fribourg, im Breisgau. Et il est parti aux États-Unis et il a été professeur à l'université du Montana. Sa première œuvre est une œuvre sur le langage, mais très vite il va travailler sur cette question de la technologie. Alors la grande différence avec Heidegger, c'est que Borgmann, lui, a une écriture limpide, très simple. Et puis la deuxième chose, c'est que en plus, il est catholique. Et un des aspects de son travail, c'est de montrer que la sécularisation n'est pas un problème d'abord idéologique, c'est lié au développement d'une technologie qui transforme notre rapport au monde. La question de la désaffection par rapport à l'Église, mais pas par rapport à toute forme de spiritualité ou de religiosité, vous voyez, hein, est liée aussi au mode de vie qu'impliquerait le dispositif technologique. Et que d'une certaine façon, l'idée qu'on trouve encore beaucoup dans l'Église d'une sorte de neutralité des instruments, vous voyez, on est dans un monde, mais bon, la question de la foi, c'est une question qui est complètement indépendante du dispositif technologique, vous voyez, c'est simplement une adhésion intérieure, etc. Et donc, il suffirait de faire de l'évangélisation volontariste pour que les choses changent. Mais il y a un problème qui est un problème de fond, qui est une disparition aussi bien du religieux que du technologique, que du politique, lié au dispositif technologique. Parce qu'il n'y a plus, justement, il n'y a plus toutes ces pratiques qui nous permettaient de concevoir un bien commun, qui nous permettaient de vivre une communauté incarnée avec des médiations, avec des... Voilà, c'est un peu ça, hein, c'est-à-dire qu'il y a un problème lié à la notion de communauté, à la notion de médiation qui est posée par le dispositif technologique et par justement ce qu'il appelle, donc ce que je traduis par appareil, mais qui est en fait la traduction sans doute de Gestell en anglais, device. Donc la distinction qu'il fait n'est pas une distinction entre machine et appareil, c'est moi qui l'a fait pour vous donner une pensée un peu plus nuancée qui fait que vous n'avez pas deux termes. Mais vous avez outils, machines, appareils, d'accord? Vous en avez trois, ce qui vous permet de un petit peu plus nuancer, c'est déjà mieux. Mais l'opposition se fait entre ce qu'il appelle des choses, on retrouve l'idée de Heidegger, hein, la chose c'est quelque chose de très important chez Heidegger, des choses qui ne sont pas des objets, hein, simplement, et des appareils. Donc, things, et devices. Et Borgmann est connu pour une théorie très simple qui est celle du device paradigm. Le paradigme de l'appareil, ou le paradigme du Gestell, on pourrait dire. Vous avez toujours sur la même feuille un texte que que je vous ai traduit et qui va vous toucher spécialement parce qu'il parle de la musique et du passage des choses aux appareils dans le domaine musical. Alors, je vais juste vous faire une petite remarque. Il y a un mot que j'ai eu beaucoup de mal à traduire, qui est le mot, je ne sais pas comment le traduire, le mot « commodity ». Comment traduire le mot « commodity » Si vous regardez une traduction simple de « commodity », ça peut être, parce qu'une « commodity », c'est aussi une ressource, mais c'est une marchandise, c'est une marchandise. Et en même temps, c'est une marchandise qui vous est livrée comme quelque chose de commode. Alors, on rejoint le français. Donc, est-ce qu'il fallait traduire par commodité ? Si vous mettez marchandise, c'est pas mal, parce que vous voyez que ça circule par l'argent, quand même. Vous voyez ? Mais vous pourriez traduire par commodité. Donc, vous voyez déjà la première phase. La musique a été mécanisée et marchandisée. En fait, là, c'est « mechanized and commodified ». D'accord ? Commodifié. Bon. Donc, il faut entendre à la fois la notion de marchandise, mais aussi la notion de commodité, hein, dans ce terme. Et on retrouve la remarque que faisait Éléonore, hein, vous voyez, mécanisation, marchandisation, technoscience, argent, tout ça autour de la notion de confort. Eh bien, voilà, ces deux processus n'en font en réalité qu'un seul. La musique ne peut devenir disponible, available. Vous voyez cette notion de disponibilité qui est une notion qu'on trouve chez Heidegger aussi, hein, la mise à disposition du monde, le dispositif qui crée une sorte de disponibilité intégrale de toute chose en appuyant sur des boutons. La musique ne peut devenir disponible en tant que marchandise culturelle, en tant que commodité culturelle, que s'il existe une machinerie sophistiquée et efficace qui la produira au gré du consommateur. Cette conjonction d'une machinerie et d'une commodité, d'une marchandise, c'est ce que j'appelle un appareil technologique. Alors voilà la définition de l'appareil technologique, du device. Voilà, I have called the conjunction of machinery and commodity a technological device. Voilà, le device technologique, pardonnez-moi, c'est la conjonction d'une machinerie et d'une commodity. La chaîne Hi-Fi, en tant qu'appareil, se distingue nettement de l'instrument, c'est pas tool qui est employé, c'est pas outil, mais c'est instrument, en tant que chose. La chose, dans le sens où j'emploie ce terme, possède un caractère accessible et intelligible et appelle à un engagement humain à la fois actif et habile. Voilà, la chose, l'outil. L'instrument de musique exige de vous un engagement, engagement, qui est employé ici. Ce n'est pas commitment, je crois, c'est engagement. C'est intéressant, parce qu'en anglais, qu'est-ce que ça veut dire, engagement ? Fiançailles, plutôt. Ce n'est pas le mariage. Hein. Fiançailles. Une manière d'épouser, hein, une manière d'épouser la chose. Hein. On l'épouse quand même. On s'engage, mais s'engager ici, c'est vraiment, ça a vraiment le sens en anglais. Il y a une connotation, hein, voyez, qui est pas comme en français. S'engager, c'est aller vers des épousailles avec le réel, donc se fiancer avec l'outil, quoi. Hein, bon. Alors vous avez cet instrument qui exige de votre part un savoir-faire, un savoir-faire. Et vous comprenez, hein, cette notion de fiançailles, voire même d'épousailles, puisque l'instrumentiste fait corps avec son instrument. On pourrait dire que le grand violoniste fait une seule chair avec son violon. Ça fait sens. Mais pour que ce soit possible, il doit passer par l'acquisition d'un art, et d'un art extrêmement difficile. Mais ça passe par là. Vous voyez donc, la chose exige de nous quelque chose. La chose, l'instrument de musique, mais même aussi les instruments de cuisine, hein, on pourrait imaginer, exigent de vous quelque chose, c'est-à-dire l'apparition d'un savoir-faire, d'un savoir manier l'instrument. D'accord ? une chose requiert une pratique là où, et voilà la différence, hein, là où un appareil invite à la consommation. Et il y a une grande différence entre une vraie practice, une vraie pratique, et consumption, la consommation comme telle. C'est pas pareil. Donc vous voyez la différence entre chose, instrument et appareil, c'est que la chose, l'instrument exige un savoir-faire, l'appareil ne vous demande qu'un acte de consommation. Et alors, maintenant, vous allez voir, il y a cette thèse très heideggerienne, hein, comme quoi, justement, ces réalités-là, ces utiles, ces choses, ces modes de dispositif, si vous voulez, vont introduire un rapport au monde complètement différent. Et voilà une phrase décisive, écoutez bien, hein. « Les choses constituent la réalité comme ordonnatrice, commanding reality », c'est comme ça que j'ai traduit dans une traduction de ce passage qui a été fait dans un livre de Matthew Crawford qui cite ce passage de Borgman, ils ont mis « réalité comme contraignante ». Mais « commanding », ce n'est pas contraignant. La contrainte, c'est ce qui vous, voyez, ce qui vous brime. Là, c'est vraiment ce qui commande, la réalité en tant que quelque chose qui commande. Qui nous commande. Les choses constituent la réalité comme ordonnatrice, commanding reality. Les appareils fournissent la réalité comme disponible. Et le mot disponible ici, c'est même pas available, c'est disposable. Disposable, ça veut dire à la fois disponible, mais aussi quoi ? Jetable. C'est très intéressant. Quand vous êtes dans le domaine des choses, et même encore dans le domaine des machines, parce que la machine a cette lourdeur, a cette visibilité qui fait qu'on voit qu'il y a, là, la réalité avec la machine apparaît comme peut-être contraignante. Mais lorsqu'apparaît l'appareil, la réalité apparaît comme disponible. Disponible et jetable. Je prends un truc, je le laisse, je prends un autre truc, et ça va très vite. J'ai tout à portée de clic. Mais c'est plus pareil. Donc, vous remarquerez dans cette phrase, c'est mon rapport au monde qui est changé selon ce que j'emploie. Si j'ai une guitare et je dois jouer de la guitare, mais j'ai une guitare chez moi, ben voilà, quel est mon rapport à la musique ? Ben, il faut en jouer, il faut apprendre. Et je dois galérer à apprendre les dispositions des accords, à ajuster ma main gauche et ma main droite. Je vais avoir de plus en plus mal au bout des doigts. Je vais avoir du cal au bout de mes doigts, sachant que le cal, qu'est-ce que c'est que le cal ? Est-ce que c'est une insensibilisation ? Non. Ça, c'est une phrase, je vais juste sur la main et le cal aux mains. Le cal n'étant pas le corps, c'est O-R. Enfin, je ne parle pas du corps de chasse, je parle du corps aux pieds ou aux mains. Le cal, c'est ce qui advient à vos mains à travers le travail, à travers le maniement de l'outil, de l'instrument que vous avez. Or, le cal n'est pas une simple insensibilisation, ce n'est pas vrai. Vous voyez bien, parce qu'au contraire, justement, vous maniez encore mieux l'outil quand vous avez le cal qui correspond à l'outil. C'est que l'outil est encore mieux calé, si j'ose dire. Parce que vos mains sont caleuses, mais l'outil est mieux calé dans vos mains. Et on s'est rendu compte, à travers des travaux, que le cal fonctionnait comme un zoom en photographie. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une sensibilité qui est beaucoup plus affinée par rapport à l'instrument que vous utilisez. C'est-à-dire que la première impression de la corde, quand vous appuyez sur une guitare, c'est une impression qui est douloureuse, ça va vous enlever cette impression-là, ça c'est sûr, mais vous allez être encore plus adapté à la finesse du jeu ou de la pluie, une plus grande sensibilité au jeu sur la corde. Vous voyez, c'est très étonnant, ça. Et vous êtes plus fin. Ce qui était gros au départ, ce qu'on voyait au départ, vous voyez, ben ça, vous le sentez plus, peut-être, il y a une chose. Mais c'est pas pour ne plus rien sentir. C'est pas une insensibilisation, c'est un changement d'ordre dans la sensibilité. C'est très intéressant. Donc, vous voyez, vous avez une chose, même votre corps va se trouver modifié, même votre posture corporelle même, on en parlait, je crois, avec Ferdinand, ceux qui tiraient à l'arc, on a vu qu'ils avaient des déformations d'épaule quand on a retrouvé des corps, vous voyez, de l'époque, je ne sais pas moi, d'Azincourt. Voilà, de la bataille d'Azincourt. Et le corps va se modifier, la posture, parce que déjà tout jeune, ils apprenaient à tirer à l'arc, et donc le corps se transforme. Voilà, la chose va impliquer cet engagement du corps, cette transformation du corps, l'apparition d'une habileté, et donc vous sentez bien que la réalité a une consistance, que la réalité possède un ordre, que la réalité vous commande quelque chose. Et vous devez, vous, d'une certaine façon, adopter la réalité et adapter votre corps à cette réalité. Si vous êtes avec un appareil, alors là c'est fini. Tout d'un coup j'appuie sur un bouton, j'ai un orchestre philharmonique. Et comme je peux avoir en plus l'orchestre philharmonique en appuyant sur un bouton, je vais avoir tendance à dire « Non mais attends, je ne vais pas faire bling bling. Je fais bling bling quand je joue avec mes mains. C'est pas possible, je ne veux pas faire ça. » Donc là j'ai un truc énorme en appuyant sur un bouton, donc petit à petit, j'ai tout à disposition, je vais m'éloigner des choses, je vais avoir de plus en plus d'appareils, mais le rapport au monde qui s'engage là, ce n'est pas la réalité comme quelque chose qui m'ordonne, qui appelle mon savoir-faire, l'adaptation de mon corps au réel, c'est à l'inverse, au contraire, hein, vous voyez, une sorte de méconnaissance de l'ordre du monde. L'ordre du monde s'efface. Et pour moi, la réalité, c'est quoi ? Bah, ce sont des choses qui sont disponibles, jetables. Voilà, c'est simple, hein ? Je veux entendre de la musique, n'importe laquelle, je me connecte à iTunes et j'ai tout. Voilà, sur mon iPod, je peux mettre, comme dans la fameuse présentation du premier iPod par Steve Jobs, vous voyez, il disait, voilà, vous avez toute la musique que vous pouvez entendre, même plus que ne durera votre vie, dans votre poche. J'appuie sur des boutons. Et là, il trouvait ça merveilleux. Mais en fait, un type serait venu et aurait dit « Regardez, ça s'appelle une guitare. » Et vous pouvez vous-même faire de la musique. Il faut travailler un petit peu, mais après, ça sera… Et là, ce sera, voilà, ça, c'est l'homme que j'aurais envie d'embrasser profondément. Mais l'autre, c'est très inquiétant. Oui. Pardon. À part Jean, bien sûr. Magali, oui. Alors, elle est moins manifeste, mais elle est encore plus une relation d'argent. Donc, effectivement, d'abord, il y a une chose que vous êtes en train de dire qui est très juste, c'est que avec les choses, avec les instruments, on fait soi-même de la musique. Alors, bien sûr, ça suppose qu'il va y avoir, vous allez dire, peut-être une plus grande spécialisation. Effectivement, je vais devenir un bon guitariste, mais je ne serai pas en même temps un excellent trompettiste, pianiste, etc. Je ne peux pas, sauf si vous êtes Hermeto Pascoal ou Prince. Mais enfin, c'est rare. Voilà. Alors, mes deux maîtres. Mais voilà, je vous conseille de découvrir Hermeto Pascoal, surtout, parce que c'est un Brésilien incroyable, prodigieux, qui fait de la musique avec tout. Donc, avec fourchette et couteau, casserole... On le voit notamment quand il est chez son dentiste, à un moment, il fait de la musique avec l'aspirateur de salive. Et voilà, un truc prodigieux. Et après, avec la fraise, où il fait des mélodies en accélérant la vitesse de la fraise, donc ça fait différentes notes. Vous voyez ? Mais tout d'un coup, vous pouvez dire, ouais, c'est du gadget, mais après, vous le voyez aller au piano, et il joue du piano comme Oscar Peterson. Après, il va prendre un saxophone, et il joue, c'est John Coltrane. Après, il va prendre... Bon, vous ne savez pas ce qui se passe avec lui, mais bon. Donc, c'est possible, il y a des gens comme ça qui ont un don, des multi-instrumentistes prodigieux, parce qu'ils sont, c'est pas des musiciens, c'est la musique, ils sont eux-mêmes la musique, il y en a quelques-uns. Donc vous allez dire, il y a une spécialisation, donc il va falloir échanger. Vous avez raison, vous avez parlé d'échange. Donc là, il y aurait l'argent. C'est pas vrai. Ça, c'est déjà une idée selon laquelle il faut l'argent pour qu'il y ait l'échange. Les premières économies sont des économies de réciprocité. Il n'y a pas d'argent. Je fais telle chose, je te donne ce que j'ai fait, toi, tu me donnes le reste. Il y avait dans un village celui qui faisait telle chose, et puis il y avait un échange, une répartition. La relation d'argent n'est pas absolument nécessaire dans une société traditionnelle. Allez, ça, c'est intéressant. Il peut y avoir une économie de réciprocité sans qu'il y ait nécessairement l'apparition de l'argent. Je vous rappelle que pour qu'il y ait argent, la grande différence, parce qu'on nous fait croire que l'argent est neutre et qu'il n'est là que pour faciliter l'échange. Mais il ne faut jamais oublier que l'argent est une institution étatique. Il y a celui qui bat la monnaie, celui qui décide de produire de la monnaie. Et donc, vous voyez, tout d'un coup, on introduit un tiers dans la relation. L'argent, ce n'est pas neutre. Faites très attention. C'est pour ça que c'est un dispositif. C'est pour ça que c'est un Gestell au sens heideggerien. Bon, mais en revanche, quand vous êtes avec des appareils, vous voyez moins l'échange parce que vous appuyez sur des boutons, mais vous la voyez la facture à la fin, parce que vous êtes sur iTunes, vous avez votre connexion Internet, vous payez des choses, vous avez dû acheter les machines, vous avez dû acheter. Donc effectivement, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne fait, autrefois on pouvait faire soi-même de la musique et ça ne coûtait rien, enfin il fallait payer de sa personne si j'ose dire. Mais là, on paye avec de l'argent pour avoir de la musique. Donc, bien sûr, c'est pour ça que je garde le mot « commodity », je garde le mot « marchandise ». Je ne peux pas mettre simplement « commodité », parce qu'il y a ce lien d'argent. Vous commandez un morceau sur iTunes. Alors, vous pouvez le pirater, le trouver des systèmes gratuits, mais malgré tout, vous avez les appareils que vous avez achetés, votre connexion Internet que vous payez, vous avez forcément des choses, ça, c'est un grand mystère aussi. Il faudra en parler, le lien entre la gratuité apparente de la plupart des sites qui vous sont proposés et le fait que ces sites sont multi-milliardaires. La gratuité de Google, etc. Donc, effectivement, ce que vous dites, c'est que la transaction n'est plus manifeste. Mais la transaction étant moins manifeste, le rapport d'argent est encore plus fort parce que la monnaie est devenue elle-même une réalité électronique disponible. Oui, c'est ça ce qui est intéressant. Donc il y a des choses à approfondir. Ferdinand ?
Mais depuis les premières cultures, il y avait des formes d'échange qui dépassaient le simple troc, les coquillages.
Oui, c'est ce qu'on dit. Les coquillages, les choses. Voilà. Mais attention, c'était marginal. C'est-à-dire, l'économie marchande a toujours existé, mais elle était marginale. La subsistance se faisait souvent à travers des échanges liés à des rapports de famille, en fait. Il ne faut jamais oublier. Et puis, on produisait soi-même beaucoup de choses. Donc, il faut faire attention. Ce qui s'est passé, c'est qu'on faisait des choses soi-même et tout ce qui manquait, on allait l'acheter. Regardez, aujourd'hui, les Amish, c'est pareil. Ils produisent dans leur communauté, ils échangent et puis après, ils utilisent l'argent pour... Et ils vont parfois dans des magasins, effectivement, pour acheter certaines choses qu'ils ne produisent pas eux-mêmes. Mais c'était marginal. Vous voyez, après, l'idée, c'est que c'est une marchandisation totale. Vous ne portez pas des vêtements qui ont été faits par votre mère ou que vous avez fait vous-même, c'est quasiment plus le cas. Vous n'écoutez plus de la musique qui est jouée par votre voisin ou que vous jouez vous-même. Voilà, tout devient lié à la marchandise. Alors oui, il faudrait que j'avance un peu parce qu'on doit finir dans 5 minutes. Donc.
Oui, l'idée de ce que disait Adrien sur le capital donc, du potage, en plus de ça, c'est pas tellement une économie fournie sur l'échange au sens... on l'entend aujourd'hui, puisque ce n'était pas un rapport d'équivalence.
Ah oui, alors...
Si
vous parlez du potlatch, et là c'est une économie donc, de don contre don, mais de don, pas au sens chrétien, de don dans un rapport de combat, c'est-à-dire moi j'ai donné plus que l'autre, voyons ce que tu es capable de donner toi, voyons ce que tu as dans le ventre, enfin en gros c'est ça. Oui, alors ça a existé aussi, c'est très important. Mais il faut faire attention que même si le potlatch est quelque chose d'important dans certaines sociétés traditionnelles, malgré tout, ce n'est pas le seul mode qu'il y avait d'échange. Et c'est un mode d'échange, effectivement. dons contre dons, mais il y avait surtout des échanges familiaux qui étaient des échanges de réciprocité. Il faut bien comprendre que nous croyons aujourd'hui que l'économie marchande, et nous revisitons l'histoire pour nous faire croire que tout passait d'une certaine façon par la monnaie, etc. Mais ce n'est pas vrai, c'était extrêmement marginal. Et quand vous passez par la monnaie, vous introduisez un tiers qui est celui qui fait la monnaie, qui a le pouvoir de battre monnaie, qui justement vous interdit de faire des contrefaçons. Vous voyez, le faux monnayage, c'est quoi? Mais voilà. Alors, une manière de ressaisir, de recréer un tissu local d'échange, c'est justement d'abandonner les monnaies, la monnaie qui vient d'en haut, qui vous lie à des effets de variation, de pouvoir d'achat, etc., et de recréer une monnaie locale. Vous imprimez des choses, et selon ce que vous avez donné, vous obtenez, mais vous êtes obligé après de prendre avec ceux qui utilisent la même monnaie. Oui, mais ça veut dire que vous réinsérez une communauté locale, voilà, et vous réinscrivez l'économie dans un circuit local. Ça, c'est très intéressant, hein. La monnaie vous met dans une situation d'internationalisation des produits aujourd'hui, alors que si vous voulez revenir au local et à un caractère moins concurrentiel, il faut que vous retrouviez une monnaie régionale ou locale. Voilà, ça, c'est la vraie question. Il ne faut jamais oublier que la monnaie est l'intrusion d'un tiers, et d'un tiers qui se tient en haut et qui peut faire des profits à partir des variations sur la qualité de la monnaie. Alors, je voudrais continuer quand même, hein, parce que ce n'est pas notre enjeu. Ici, c'est vraiment de comprendre ce qui se joue avec l'appareil. Et vous remarquerez qu'il y a une inversion par rapport à ce qu'on avait dit sur la machine. Dans un premier temps, on avait dit « l'homme se sert de son outil ». Ouais, donc l'outil qui est adapté à la main, bien sûr. Puis après, on a dit, apparaissent les machines, les hommes doivent s'adapter aux machines et doivent servir les machines. Mais avec l'appareil, c'est plus exactement ça. On est dans un lieu étrange. C'est pour ça qu'il y a une distinction avec la machine. Est-ce que c'est encore comme une machine, ou est-ce que c'est le retour à l'outil? Parce que vous voyez bien, j'ai tout à disposition, j'ai tout à portée de main. Si j'ai tout à portée de main, c'est pas moi. Si la réalité pour moi devient disposable, disponible, ça veut dire que c'est moi qui, c'est la réalité est adaptée à moi. Alors qu'avec l'outil, vous avez remarqué qu'on est dans une transformation, un retournement de la pensée. L'outil, bien sûr, je m'en servais, mais je m'en servais à travers une pratique qui me demandait d'obéir à la réalité aussi. Et alors, faut nuancer ce qu'on avait dit. Inversement, la machine se sert de moi, mais vous vous souvenez ce que disait Marx? Produit une facilité. Ici, la facilité semble l'emporter, vous voyez, sur tout ce qu'il y avait de contraignant dans la machine encore. Ce qui restait de contraignant dans la machine disparaît en vue d'une sorte de facilité. Est-ce que ça veut dire que c'est moi qui commande désormais? Non. Parce que même si la réalité m'apparaît comme disponible, en réalité, je suis moi-même soumis aux cadences et aux formats de l'appareil. Et même complice de certaines choses sans le savoir. Je reviendrai, mais est soumis aux formats et aux cadences. Par exemple, le fait même que le flux d'informations soit permanent, vous voyez, par Internet, fait que mon rapport au jour et à la nuit va changer. Je peux aujourd'hui, d'une certaine façon, ne plus dormir. Il n'y a pas de moment où les choses s'arrêtent, vous voyez. Et vous savez, souvenez ce que disait Marx sur la machine qui continue tout le temps de marcher, etc. Que le rythme de travail, la journée de travail n'est plus limitée par le corps, la fatigue du corps, ni par le jour et la nuit. Il va falloir maintenant, on peut travailler sans cesse, on continue. Mais avec le flux d'informations produit par Internet, c'est encore plus radical, on pourrait dire. Et là, je pourrais dire, mais c'est moi qui choisis, je me laisse, voilà, quand je veux, etc. Oui, mais déjà, ça montre que vous n'êtes plus en résonance avec le cosmos, vous n'êtes plus en résonance avec vos entours, mais déjà lié au rythme ou à la cadence imposée par cette machine. Voilà. Alors, je finis juste, on verra la prochaine fois. Voilà comment conclut Borgman. Si nous observons le foyer américain ordinaire, selon une perspective historique et en avisant la proportion de choses et d'appareils qui s'y trouvent, il apparaît évident que les appareils et la consommation ont remplacé les choses et les pratiques. Voilà une phrase décisive. La proportion, bah oui, dans une maison, dans un foyer américain, il y avait des choses, ou des instruments et des pratiques, des savoir-faire. Et maintenant, il y a de plus en plus des appareils, devices et de la consommation. Que l'on considère la culture de la table, voilà, on y revient, c'est pour ça que tout à l'heure Julien a dit « à table ». Effectivement, il y a une table ici, hein, quand vous êtes dans un, vous étudiez, vous êtes sur des tables, hein, enfin, jamais oublier. Que l'on considère la culture de la table, la pratique de la cuisine a été fortement diminuée par la mise à disposition, availability, des plats prêts à manger, de plats prêts à manger et de fours à micro-ondes. La pratique du repas a été morcelée par le grignotage, le snack, l'encas, le fait de prendre un morceau, autant de formes de pure consommation alimentaire. Et donc nos modes ne sont plus des pratiques de la table, mais un mode qui est celui de la consommation. On grignote, on prend un truc. Et n'oubliez pas hein, que le culte des régimes alimentaires individuels, moi je suis ceci, moi je suis vegan, moi je suis Big Mac, moi je suis machin, tout ce que vous voulez. Non, ça vaut pour tout le monde, attention, ça vaut pour tout le monde. Vient, en fait, se développe d'autant mieux que chacun peut avoir à disposition son truc. Et chacun va manger à part, c'est-à-dire ça fait partie du morcellement techno-économique de la table. Et la nourriture elle-même est passée, alors écoutez ça, hein, la nourriture elle-même, parce que c'est pas tellement ce qui est là simplement, mais voyez, la nourriture, je peux la voir comme une chose et je peux la voir comme un device aussi. Écoutez bien cette chose-là. Hein. Et la nourriture elle-même est passée de l'état de chose, portant avec elle sa lumière et son contexte intelligible, à celui d'opaque mais brillante marchandise, commodity. Quand autrefois je mangeais du pain, qu'est-ce que c'était le pain ? Ce pain me reliait à un environnement qui était celui des fours communs où on faisait cuire le pain, celui du céréalier, de celui qui produisait les céréales. Dans le village, je savais qui c'était, plus ou moins. J'avais une vision d'échange, je voyais les moulins. Ah, il y avait un minotier. Ouais, je connaissais, vous voyez, un meunier d'ailleurs, ça disait plutôt un meunier, tu dors. Non, c'est une chanson, j'explique ce que c'était. Un meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Voilà. En fait, c'est une chanson tragique sur la disparition. Tout va trop vite, ton moulin va trop vite. C'est l'apparition des devices qui font disparaître vraiment la visibilité du moulin avec ses ailes poussées par le vent ou par l'eau, etc. Bon, bref, vous aviez tout ça. Le pain était comme était une chose parce qu'il rassemblait en lui tout un contexte social, tout un contexte de relations humaines, de rapport à la nature. Aujourd'hui, vous achetez du pain en tranche Harry's sans les bords. Vous savez, il y avait en plus ceux qui n'ont même pas les bords cuits. Donc un truc entièrement blanc, homogène. Et bref, le mot qu'il emploie, j'ai traduit par brillante. Une chose brillante, commodity. En fait, le mot qu'il emploie, c'est glamorous. C'est pas traduisible. Hein. Le pain est désormais glamour. Glamour, c'est-à-dire qu'il ressemble au pin-up que vous avez sur les magazines. Il est pareil, vous voyez, c'est la même structure. Mais simplement, de la même façon que ces pin-up n'ont pas de vie privée, on ne sait pas qu'elles vont aux toilettes, on ne sait pas qu'elles ont... C'est des êtres complètement sans humanité profonde. Ils ne se posent pas de questions décisives, voilà. De la même façon, ce pain, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'il y a, d'après Borgman, vous voyez, vous dites, je sais qu'il y a un vague agro-business derrière ce pain qui m'est présenté directement. Je l'ai pris dans un supermarché, hop, je l'ai à portée de main, mais ce qu'il y a derrière, je ne sais plus. Là, je vous ai déjà parlé de ça. Et c'est aussi l'autre aspect de la séparation, la distinction entre choses et appareils, et même entre machines et appareils, c'est qu'il n'y a plus de visibilité de la production. On avait parlé à propos des rouages déjà, mais il n'y a plus de visibilité de la production. Et dès lors, le dispositif technologique crée une opacité. J'y reviendrai la prochaine fois. Mais vous voyez, c'est un autre aspect profond. Disparition, donc, du rapport au monde comme ordinateur, mais tout est disponible. Mais en même temps, cette disponibilité, la commodity est devant moi, mais toute la machinerie qui est derrière, la machinerie, tend à être cachée. Un appareil, je vous l'avais dit, il n'y a rien à voir. Il n'y a plus rien à voir. Si ce n'est à transformer ce qui est à voir comme un effet de l'appareil, c'est-à-dire je me renseigne en regardant sur YouTube ou sur des écrans des documentaires qui me parlent de la chaîne de production. Mais vous voyez, mais c'est encore, vous voyez, avoir cet effet où je ne vois plus la réalité des choses. Donc, l'appareil crée une opacité du monde de la production, ce qui fait que je peux participer à travers mes appareils qui me rendent tout disponible. J'appuie sur des boutons, c'est super chouette, mais peut-être que je participe à un système d'exploitation, de destruction, de dévastation que j'ignore. Alors je vous donnerai quelques éléments à ce sujet au prochain cours. Voilà, merci.